tellement mieux.
Hey, je sais pas si il m'entame, ça serait le temps d'ouvrir la lumière.
Hey, c'est sombre à matin, hein?
Il fait noir comme dans le cul d'un ours.
Ouais, je suis d'accord avec toi, ça chez nous aussi. Mais ça fait du bien, je trouve.
Ouais, ça fait du bien, mais je sais pas, ce matin, je me suis levé, j'ai regardé. Moi, je me réveille souvent, pas de cadran, là. Quand je mets mon alarme le matin, je me le réveille tout le temps 2-3 minutes avant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous êtes chronométrés, vous autres aussi, là. Mais moi, tout le temps 2-3 minutes. Puis, tout le temps, une petite tendance à ouvrir un œil pour regarder la température qu'il fait dehors. Puis là, il faisait encore noir. Je me suis dit, ah, il me reste encore quoi, une heure à dormir à peu près.
C'est une erreur.
2-3 minutes. Bip, bip, ah! Là, faut que je règle ma montre. Ma montre me réveille la nuit. Je sais pas ce qu'elle veut, là.
Hey, mais attends, mais t'as-tu le réveil intelligent dessus? C'est peut-être ça.
J'aimerais mieux que ce soit ma blonde, là, tu sais. il est genre 2h du matin, ça te tente-tu? Mais non, c'est ma montre qui fait des buzz. C'est juste que je la laisse à mon poignet plutôt que de la mettre ailleurs, ce qui fait en sorte que ça me plaît pas pantoute.
Mais sinon, mais ça, c'est juste dans les paramètres, là.
Les paramètres, hein.
Parce que généralement, quand t'as le sommeil plus léger, tu peux commander à ta montre de te réveiller dans ce moment-là pour que le réveil soit moins tough. T'avais ça, moi.
Quand j'ai le sommeil plus léger,
ouais,
je commande à ma montre de me réveiller.
Ça s'appelle un réveil intelligent. Puis c'est okay. Sur toutes les montres intelligentes. Puis tu peux le désactiver, évidemment. Mais c'est que quand tu es dans un haut de sommeil où tu es sur le bord de te réveiller, un sommeil léger, ta montre peut vibrer pour...
Pour vraiment te réveiller.
Te réveiller de façon plus naturelle au lieu de te réveiller en plein sommeil profond avec un cadran qui sonne. C'est quand même bien fait, pour vrai.
Sûrement. Je me demande juste qu'est-ce que les hommes de préhistoriques faisaient.
Ils se fiaient à eux autres, je pense, puis au soleil. Puis, mais nous autres, on met des rideaux, fait que ça marche pas.
Ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'était carrément ça. Ils faisaient noir, ils dormaient. Ils faisaient clair, ils se réveillaient. La vie, c'est simple. Peut-être un jour à la retraite, si je réussis à prendre ma retraite à 65 ans.
Mais moi, je fais ça chez nous. Chez nous, il n'y a pas de rideaux nulle part. Je me réveille avec le soleil.
Puis, tu mets rien sur tes yeux? Bon, ben, tu viens de trouver la cause, des fois, de ton sommeil qui n'est pas assez efficace. Faut qu'il fasse noir total.
Ah ouais, hein?
Et ça, c'est des spécialistes qui le mentionnent. C'est pas moi, là. C'est pas,
et pourtant, je me sens plus de bonne humeur quand je me réveille tranquillement parce qu'il commence à faire clair que quand j'ai un cadran qui me sonne dans les oreilles.
Non. Je comprends, là. Mais non, faut vraiment qu'il fasse noir. Comme il y en a qui dorment avec la lumière verte, vous n'avez pas un sommeil qui est hyper récupérateur. Pourquoi on doit dormir dans le noir? Tu tapes ça sur Google, là, ton matériel intelligent, là, ou encore sur ChatGPT, puis il y a des raisons à ça, là.
Bon, tu vois, en l'absence de lumière totale, le cerveau sécrète de la mélatonine via la glande pinéale, une hormone qui réduit la pression sanguine, la glycémie, température corporelle, ce qui est indispensable pour un sommeil de qualité.
C'est ce que je voulais dire, mais j'avais pas pris mon deuxième café.
Oui, c'est ça, non, exact.
C'est super important de dormir dans le noir total. Puis d'ailleurs, moi, c'était un combat que j'avais avec la mère de mes enfants.
Ben, tu vois, moi, ça me prend une craque.
Elle voulait mettre des petites veilleuses pour les bébés.
J'ai dit
non, il n'y aura pas de petites veilleuses.
Pour
ils ont peur. Non, c'est toi qui as peur.
Ouais, c'est ça, parce que les enfants s'adaptent vite. Là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, les autres, ils ne savent pas. Peut-être pour les bruits, ils peuvent peut-être faire des sauts, là, mais pour la lumière, ils ne savent pas. Il faut qu'ils dorment la lumière allumée, la lumière ouverte. Là. C'est toi qui les habitues.
C'est page blanche.
Puis aujourd'hui, mes gars, si jamais ils ont une petite lumière dans l'embrasure du dessous de porte, là,
ça les dérange.
Papa, éteins la lumière.
Ah ouais,
hein? Oui, vraiment.
Le pire, c'est que tu dis ça, puis tu as assurément raison, parce que je le remarque, quand je vais dormir chez mes beaux-parents, eux autres, c'est noir total dans la chambre d'amis.
Ouais.
Puis je me rends compte que je peux dormir jusqu'à 9-10 heures, quand normalement, moi, là, 6h30, je suis pas mal debout.
Alors,
là,
quelle est votre déduction, Sherlock?
Ben, il faut qu'il fasse noir. Non, mais moi, c'est vraiment une question de réveil. J'ai un nouveau téléphone, OK?
Et là, puis, tu t'en vas sur Canac, tu t'en vas te chercher des rideaux.
Oui, il va falloir que je fasse ça.
Il y en a qui mettent des toiles... plus des rideaux, là.
Moi, oui, je m'en suis acheté. Complètement noir.
Là, c'est... J'étais contre ça, mais ma blonde, elle a acheté des rideaux en cuir. Puis sérieux, là, il n'y a rien qui passe. C'est noir, noir,
c'est
noir.
C'est ça, c'est tellement opaque. Oh, vraiment. Ouais, j'aurais jamais pensé à ça.
C'est des rideaux en cuir. On a comme des petits rideaux là, fins, là. Puis quand on décide de se coucher le soir pour faire des mamours, on ferme les rideaux de cuir. Et merci, bonsoir.
Noir.
Ouais, elle sort le fouet.
Tu peux te concentrer sur tes sens. Mais le pire, c'est que je m'habituerai jamais à un cadran. J'ai changé de téléphone la semaine passée. Puis tu sais, il y a des settings qui sont mis d'avance, là, des paramètres qui sont comme préétablis. Et mes cadrans se sont liés à Spotify. Ce qui fait que quand mon cadran a sonné hier matin, c'était « Guess who's back? » Again, qui jouait dans mes oreilles. Je me suis tellement mal levée. Puis ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles je mets pas de rideau chez nous. C'est que je me dis, je me réveille plus naturellement quand tu commences à faire clair.
Ouais, c'est sûr. Ça dépend. Tu dors combien d'heures par nuit, toi?
Il me faut un 8, honnêtement.
Un
là,
8?
Ah, oh, sinon, okay. Un 8 ou un 5. Entre deux, ouais, là, je suis déphasé.
Moi, à 5-6, je suis correct. Si vous me faites dormir 8-9, ce qui arrive très rarement, là, si vous me faites dormir 8-9, ma journée va être pathétique.
Mais trop, c'est parce que c'est comme pas assez.
Ouais.
Tu viens que tu crées des problèmes toi-même, mais c'est dur de trouver ce que ça te prend, pour vrai. T'sais, moi, 5, je sais que j'en ai pas assez. Mais c'est que dans les cycles, là, c'est le moment où je suis capable de te faire sur l'adrénaline une journée. Là.
Donc, comme disait grand-mère, le bon Dieu a oublié d'ouvrir la switch aujourd'hui, ce qui fait en sorte que ça va être ça tout au long de la journée, là, l'éclairage qu'on va avoir à Québec. Je voyais ce matin des gens sur l'autoroute faire des hautes basses pour dire aux gens d'allumer.
Oui.
Parce que dans le secteur de Val-Bélair, sur l'autoroute, quand tu es rendu sur Route des Braves...
C'est brumeux?
Non, c'est juste... c'est comme... c'est un deux voies.
OK.
Fait que d'un bord, c'est tu montes vers le nord, puis de l'autre bord, tu descends vers le sud. Puis les gens stressent à voir les véhicules qui arrivent vers eux, fait qu'ils décident de leur dire « Hey, allumez vos lumières ». Pourtant, c'était pas si pire que ça. Un matin, il n'y avait pas grand brouillard, là. Mais il y en a qui n'ont pas une super de bonne vue. Je me demande juste ce qu'ils font sur la route. Mais il y en a qui n'ont pas
une super de bonne vue. Ça, c'est un autre débat.
Ouais. Donc, 11 degrés sur Québec pour aujourd'hui, c'est de la pluie ou de la brune qui devrait cesser dans les prochaines minutes. Si c'est pas déjà fait, maximum de 14 ce soir, cette nuit, c'est les averses encore, avec un minimum de 6 degrés. Demain mardi, c'est un ciel dégagé qu'on aura, maximum de 14 degrés. Mercredi, alternance de soleil et nuages, maximum de 14. Jeudi, c'est nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 14. Vendredi, c'est une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 15. Vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route. Vous êtes dans l'open mic, les amis, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps par texto au 88-971-1021.
C'est rare qu'il y ait de la circulation forte à cette heure-ci, mais il y a eu un accident un peu plus tôt, Henri IV Nord, à la sortie du pont Pierre-Laporte, la voie de gauche et du centre qui était bloqué. C'est ramassé, mais ça crée encore des dommages. Si vous êtes sur la 73, vous vous dirigez vers le pont direction nord, là, entre rue Beaulieu et le pont La Porte. Super difficile de circuler en ce moment. La 20 aussi, direction ouest, surtout à la hauteur de Chemin des Îles, c'est particulièrement difficile. Il y a quelques ralentissements à prévoir aussi à la hauteur de Taniata. Si vous êtes sur Guillaume Couture, à l'approche, en fait, de la rue MS Lacasse, là, si ça vous dit quelque chose, à l'approche des ponts, là, pour être plus général, il y a également des problèmes de circulation. La Rive-Nord, c'est libre pour le moment, évidemment. Quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous texter au 971-102.
Est-ce que tu as fait le marathon de Québec ce week-end?
Hey, non, mais j'avais de l'admiration pour les gens qui l'ont fait. Moi, j'ai eu le week-end le plus large de l'humanité. Là. Fait que je regardais ce monde-là courir et je me disais, bon, je sais que l'ami Jeff l'a fait, entre autres.
Oui, c'est ça, il marche un matin comme s'il avait passé la nuit avec un genre de d'ours noir qui était très en rut.
Oui.
Il marche un peu croche, mais je salue tout le monde qui avait fait le 42. Il y avait le 5 et le 10 là, de mémoire aussi. Je vous félicite, c'était un super de beau marathon. Encore une fois, c'est Simon Leblanc qui l'a remporté pour une deuxième année de suite. Lui, je le soupçonne. Là. Première année, je savais pas si ça me tentait. Je me suis inscrit, j'y étais, je l'ai gagné.
Mm-hmm.
Puis là, c'était à peu près la même affaire. Ah, ben là, ça faisait un an que je traînais une blessure. Je savais pas si je vais être capable de le faire. Finalement, je l'ai fait, je l'ai gagné.
Mais attends.
C'est après moi, il connaît la sauce québécoise. Il faut tout le temps qu'il y ait comme une histoire. Là. Tu sais, tu comprends?
Ouais, derrière. Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs cette année que c'est ça. Il y a eu des blessures. Jeff, ça a fait ça. Jeff avait un problème à cheville. Il a été suivi par une physio. Puis il se demandait à quel point il allait être capable de le faire en entier ou si ça allait bien se passer. Finalement, je veux dire, la physio a fait la job. Puis tout a bien été. Là.
Mais Simon Leblanc, c'est une machine de guerre. Ce gars-là est professeur en Beauce. Il s'entraîne énormément. Là, à ce qu'on me dit, il a fait un changement de carrière. Là, il veut devenir policier.
Ah oui?
Mais ce gars-là, tu veux pas qu'il te court après parce que
non,
vraiment,
c'est
il va tu vas manquer de souffle. J'exige l'allure.
Ouais.
D'après moi, il n'y a pas un once de gras là-dessus.
Et quel âge, lui?
À vue de nez comme ça, je te dirais peut-être une trentaine d'années, entre 30 et 35 ans, ça se peut-tu? Je sais pas
ça
si on mentionne son âge, mais écoute, il est top shape. Mais c'est ça, à chaque année où il gagne, il y a tout le temps une histoire. Moi, ce monde-là me fatigue.
Ah ouais, le sensationnalisme. Là.
Mais je ne sais pas si c'est ça, parce que ça se peut que son histoire soit vraie, mais deux fois en ligne, moi, ça ne me tentait pas d'y aller. Finalement, je me suis inscrit pareil, j'ai gagné. Tu sais.
Ouais.
Le gars, là, faut qu'il se surentraîne, parce qu'il a surpassé toute la gang.
Ouais.
Je ne sais pas combien de milliers de personnes qu'il y avait au marathon de Québec, mais pour faire 42,2 km, tu t'entraînes régulièrement. Là.
Ben oui, mais le fait... En même temps, j'ai pas de misère à y croire. Moi, tu vois, puis peut-être que je manque de conspiration dans mes propos, mais j'ai pas de misère à y croire parce que tu te blesses quand tu t'entraînes aussi souvent que ça. Tu sais, c'est des gros entraînements, c'est pas petit, là. C'est énormément demandant pour le corps, là. Fait que j'en doute pas que c'est pas tout blanc, là. Ça se passe pas nécessairement bien de A à Z. Ouais.
Moi, je pense qu'il connaît la sauce québécoise. Il a tout le temps besoin d'une histoire à raconter. Mais cela dit, je le félicite. C'est un athlète incroyable de la grande région de Québec. C'est un beauceron. J'aime bien beauceron. Mes gars sont des petits beaucerons, puis j'en suis bien fier. Alors, voilà, j'ai pas décidé de le faire. Je suis supposé le faire avec Max en passant. On avait pris un pari l'an passé. Oui, on avait pris un pari l'an passé, puis là, 3-4 mois... là, on me disait qu'on était sur le point de manquer de dossards parce qu'il faut tes achats d'avance. Là.
Mm-hmm.
Puis là, il y avait comme une surenchère de ces dossards-là sur Marketplace, puis il y en a qui se faisaient avoir et tout ça. Tu te souviens-tu de ça?
Ben, ça me dit vaguement quelque chose, là, mais je...
Puis là, j'ai pensé...
Me tiens loin de la course.
J'ai pensé à dire à Max, « Hey, on s'était fait une promesse comme quoi on allait faire le marathon de Québec. »
Si on n'a pas reparlé, t'en as pas reparlé.
Puis là,
hein?
Je me suis dit, probablement qu'il l'a oublié.
T'es lâche! Penses-tu que tu serais capable sans blague?
Je serais capable de faire le 10 très certainement. Le 42.2, ça demande énormément d'efforts pendant l'année.
Ouais.
Tu peux pas décider comme moi à dernière minute, là, un mois, deux mois du marathon, de dire hey, je vais faire le 42 puis je vais me donner. Mm. Tu peux faire le 42 en marchant et en courant, là, ça, tu peux le faire. Puis cela dit en passant, c'est pas rien là, quand tu marches puis tu cours pendant le 42. Mais quelqu'un qui se réveille comme 3-4 semaines avant en disant « Hey, j'ai jamais fait de marathon, mais on va aller faire le 42 », faut vraiment qu'il y ait une bonne physionomie de base là, pour courir. Parce que moi, je sais que quand je cours trop longtemps, le bord de mes genoux, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, les coureurs, des languettes, quelque chose du genre, ça commence à me faire mal. Puis les tendons d'Achille?
Oui.
Tendons d'Achille, c'est pas une affaire. Tendons d'Achille? Bon, ben ça me fait mal quand je cours plus que 10-15 km.
Ah oui?
Ouais. Je le fais régulièrement. Un 10? Je suis capable de faire un 10 assez facilement au Mont-Bélair. Je vais courir là. D'ailleurs, il y a un 11 km qui est le fun à faire. Mais un 42, c'est du stock. Là.
Ah, moi, j'ai énormément d'admiration. Là.
Ça ne me tente pas que personne me voit marcher, mettons.
Oui, je sais. Il y a l'orgueil qui rentre aussi. C'est ça le problème. J'ai beaucoup d'admiration pour les coureurs parce que, sans blague, là, j'ai de la misère à faire un 3 km. Là. J'ai zéro cardio, ouais. Zéro technique. Je trouve le monde hot. Puis il y en a qui en font vraiment une passion. Là.
On me dit que Simon Leblanc fait des Ironman. Ah, c'est un athlète. Là.
Mais pas de pop en tout non plus. Là.
Quand tu fais des Ironman, tu es vraiment un athlète.
Avez-vous couru 88-97? 101, faites-vous partie de ces gens-là qu'on peut souligner aujourd'hui parce que nous autres, on n'a pas couru hier.
Mais à la limite, moi, j'ai joué deux matchs de deck hier.
Ouais, hein? Ouais,
moi aussi, j'ai l'impression d'avoir été à la même place que Jeff Fortin, c'est-à-dire avoir passé une nuit avec un ours en rut.
Mm-hmm.
Ouais. Mais à la limite, Audrey, regarde, il existe des réveillés au lieu de sonner. C'est une lumière qui allume de façon graduelle.
On parle des réveils matin ici. Ouais. Ah, je savais pas que ça existait, par exemple.
Oui, il y en a qui ont ça. Ça pitche la lumière au plafond, puis ça te la gradue.
Mm-hmm.
Puis là, ben, tu te réveilles tranquillement. Fait que tu peux mettre des rideaux très, très, très opaques. Là.
De cuir.
De cuir. Quand elle m'avait dit ça, hein? Des rideaux de cuir.
Vous le saurez, Yann a des rideaux de cuir.
C'est avec qui je vais habiter, tu sais, des rideaux de cuir. Je te connais-tu vraiment?
Ça a coûté tellement cher,
j'ai
en plus.
J'ai dit oui. Je sais pas, elle les a traînés de son ancien appart. Oh, fait que je les ai pas payés. Fait que c'est une raison de plus pour les accepter. Puis après ça, ben, tu peux avoir le même effet dans ta chambre à 9h le matin.
C'est intéressant.
À te pitcher au plafond, puis là, tu te réveilles. Là, mais tu viens peut-être de trouver quelque chose qui te manquait.
Solution. Oui, non,
c'est-à-dire
raison.
Un sommeil extrêmement profond.
C'est peut-être quelque chose de pertinent à analyser, effectivement. Je note.
J'ai choqué mon 42 à cause d'une blessure que je traîne depuis le mois de mai. Tellement
c'est poche, ça. Ouais, ça doit être une grosse déception. Mais je me demande pourquoi, dans ce temps-là, pas le marché. C'est-tu parce que, justement, l'ego, l'orgueil embarque? Puis tu préfères pas le faire tout court, sais-tu?
Mais tu peux le marcher, là. Tu sais, je faisais des blagues en disant, le problème, c'est quand quelqu'un te prend en photo puis dit « Hey, t'as pas fait le 42 à la course. » Mais tu peux le marcher sans aucun problème. Puis le Doc Boucher, à qui on a parlé la semaine passée, merci en passant, Doc Boucher, si tu nous écoutes, tu nous as sorti du trouble la semaine passée, mais tu brûles le même nombre de calories.
Ah oh oui, ça changerait à ce niveau-là.
Fait que tu marches 10 km ou que tu cours 10 km, le Doc Boucher, qui est pas c'est un gars avec des grosses études, là, il vous garantit que vous brûlez le même nombre de calories.
Mais tu le fais-tu pour ça? Tu sais, je pense que ceux qui sont athlètes et qui courent, c'est vraiment pour le défi cardiaque.
Ouais.
C'est ça, c'est pas la même chose. On a quelqu'un qui nous dit « J'ai fait le 42 hier. Je vous garantis que j'ai mal à mon corps ce matin. » Max nous dit « J'ai couru 42,2 km. J'ai fait celui de Montréal, mon premier, mais avec un orteil cassé la veille. J'ai fini dans les derniers, mais je l'ai fini. » Je trouve ça hot, ça.
Ah, good job.
Vous parlez du marathon. J'aimerais souligner mon oncle, Claude Martel, qui a couru le demi-marathon de Québec en 2h22 minutes. C'était son 110e wow. demi-marathon pour les 10 marathons à 70 ans. Hey, c'est fou, ça. Ça, là, ça, j'ai vraiment beaucoup d'admiration.
Oui, mais il faut que tu prennes soin de ton corps.
70 ans, puis tu fais un demi-marathon.
Faut que tu prennes soin de ton corps. Le matin, je me lève des fois, puis je me dis, je me rendrai pas là, là. Des fois, j'ai hâte que ça finisse.
Des fois, là, je projette que je vais être en forme, que je sois dans soixantaine, soixante-dizaine, 80, tu sais, en me disant j'ai encore le temps de me mettre en forme d'ici là. Puis les années avancent, puis je me dis, tu vas finir en chaise roulante.
Mais il y en a un qui a fait ça. Hey, j'ai trouvé ça super beau. Ça, c'est mon petit côté catane, je suis vraiment désolé. Mais j'ai vu un gars qui a couru avec son fils qui était en chaise roulante.
Ah, il me semble que j'ai vu ça aussi sur ses internets.
Oui, je ne sais pas où je l'ai vu, là, mais je sais que je l'ai vu quelque part. C'est-tu aux nouvelles que j'écoutais hier? C'est-tu dans le journal ou encore sur les réseaux sociaux? Mais ça, là, j'ai trouvé ça tellement beau. Là.
C'est beau en tabarnouche. Ouais. Je pense que c'était comme le rêve de son fils, là, qu'il n'y avait aucune façon qu'un jour fasse un marathon. Là. Puis ils l'ont fait ensemble. Mais je l'ai vu passer aussi. C'est magnifique. Là, c'est...
Jen qui dit « Salut, je ne sais pas si pour le 42, on peut le marcher. Mais exemple, l'an passé, j'ai fait 5 km et on avait un Timescape à respecter. Fallait le faire en bas d'une heure, sinon on était disqualifié automatiquement. De ce que j'ai compris, je sais que le demi-marathon ou le marathon, il y a des lapins de cadence. Et je crois qu'une personne au maximum 6 heures a maximum 6 heures pour le faire.
6 heures?
Des lapins de cadence.
C'est moi, je pensais pas que ça existait comme ça.
Une femme de 89 ans hier qui a fait le 10 km samedi.
Je trouve ça tellement hot.
Une femme de 89 ans qui a fait le 10 km samedi.
Moi, ma grand-mère est rendue à 86. Je pense pas qu'elle voudrait que je dise ça, mais regarde, c'est dit. Et ma grand-mère est plus en forme que toi et moi mis ensemble. Ma grand-mère, elle marche des kilomètres et des kilomètres tous les jours.
Ça étend-tu de faire un combat de lutte l'an prochain?
Elle dit que, ben là, pousse pas ta loque.
Non, mais t'as peu, là. Fais attention à ce que tu dis.
Mais non, mais c'est vrai pareil. Il est très en forme.
Oui, mais plus en... À 80 ans.
Oui, mais t'as de la misère à suivre, là. Quand t'en passes à la trotte, elle là, je serais partie pour des heures.
Oui, mais il y a une différence entre magasiner et courir.
Yann, à 86 ans, laisse-y ça, OK? Elle est en forme. Elle dit qu'elle fait du bénévolat pour les personnes âgées. Elle fait du bénévolat à soupe populaire. Elle est magique, ma grand-mère.
Tu retiens pas du voisin, par exemple? C'est une personne âgée qui fait du bénévolat pour les personnes âgées.
Ah oui.
Ouais.
C'est quand même drôle. C'est mignon.
C'était sa petite fille.
C'est vraiment mignon. Puis elle l'assume à part de ça. Mais je trouve ça hot, puis je trouve ça inspirant. Fait que bravo, bref, à tous ceux qui se sont levés le derrière en ce dimanche hier pour aller faire un 42, un demi, un 10, un 5, peu importe. Juste le fait de s'être pointé, c'est déjà beaucoup. Là.
Donc, Max Larouche, tu m'entends, l'an prochain, on le fait. Si tu y penses.
T'es zéro crédible, Yann. T'as aucune crédibilité.
Hey, je sais pas comment ça se prononce son nom. C'est-tu Roy Davis ou Roy Davis?
Je suis pas mal sûr que c'est Roy. Il nous écrira ce nom, 971-102-1-ROY. Mais
son nom, c'est Roy Davis?
Oui, Roy Davis.
C'est son nom, genre, d'artiste?
Oui, Roy. Ouais. Ça sonne.
En remarque, à un moment donné, je pense qu'il y en a un qui s'appelle Tire le Coyote. Là.
Ouais.
C'est son nom d'artiste aussi, mais c'est moins. Tu sais pas si c'est. Faut-tu le prononcer à la francophone?
Non, ou
à
la anglophone? Roy, ça sonne cool. Roy Davis.
C'est Roy Davis.
Roy Davis.
Voici Roy Davis, décoré la terre sur le boulevard. Le grand retour de notre ex-enquêteur de la Sûreté du Québec en studio. On a plein de choses à se raconter hors onde.
Oui, il y a des affaires assez plates, ce bout-là, hein, pour les gens qui sont sur le Twitch, mais il y a des affaires qui peuvent pas se rendre en onde.
Il y a du mémérage, on fait du mémérage. Ben oui. Il est là, il est avec nous, Danny Morissette. Comment ça va, mon ami?
Écoute, salut Yann, salut Audrey, ça va mieux que la dernière fois. Oui. J'ouvre, j'en ferme une parenthèse, je suis sincèrement désolé. Mercredi passé, c'est pas arrangé avec le gars des vues, j'ai fait une labyrinthite. Ça, c'est quelque chose que je souhaite peut-être à une ou deux personnes, mais pas plus que ça. Là. J'ai perdu connaissance, carrément. C'est pas parce que je voulais pas venir, au contraire, je m'étais préparé la veille, j'avais parlé avec Audrey.
Ouais.
Mais je suis sincèrement désolé, regarde.
C'est vraiment pas grave. T'as-tu déjà fait une labyrinthite, Audrey?
Ma mère a déjà fait une labyrinthite.
C'est capoté parce que t'es dans ton lit, puis là, t'as l'impression que t'es sur un voilier.
Ouais, t'es chaud en tout temps.
Puis là, un moment donné, tu regardes le plafond, on dirait que c'est le plancher. Après ça, là, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais couché au plafond? Ça marche pas. c'est épouvantable, ça. Ça a duré combien de temps?
Ben, je suis encore un peu là-dessus. Je prends des médicaments, okay. Mais je suis à peu près à 80%. C'est parce que ça joue bien gros sur la mémoire et sur le cerveau aussi.
Ouais.
À partir du moment que tu bouges, tu es étourdi.
Exact. Fait que c'est vraiment dans les oreilles, ça.
C'est le liquide, que le labyrinthe, là, c'est un petit os que tu as dans l'oreille. Puis c'est le liquide qui qui est dans le trouble.
Hey, on a des gros sujets à jaser avec toi aujourd'hui. Je vais commencer par des petits. La Ville de Québec, le service de police de la Ville de Québec qui a appris qu'on allait prêter main forte en leur donnant des agents de la Sûreté du Québec. Comment ça se passe, le municipal versus le provincial, quand vous avez à travailler ensemble? C'est-tu toujours bien reçu? Y en a-tu qui gardent un peu d'informations de leur côté? Ils veulent-tu mieux paraître que les autres, que le corps, l'autre bord qui fait enquête à peu près sur les mêmes choses qu'eux?
Mais ça a changé beaucoup. Tu sais, avant, oui, tu avais des gardes-clochers, mais...
On vous appelait les bruns?
Ben non, ouais, c'était les verts puis les bleus.
Les verts
puis les ouais, bleus. C'est... Moi, j'étais un peu un mix des deux parce que j'ai fait SMPSQ. Comment ça marche? Ben, tout est dans l'approche, je pense. T'sais. C'est pas comme dans les films où c'est que le gars du FBI arrive et il dit « OK, tossez-vous. »
C'est
là,
moi qui est en charge.
C'est moi qui est en charge. Non, tu sais, il y a une question d'approche, puis de diplomatie, puis d'attaque. Puis t'as toutes les fois que j'ai travaillé, puis encore les dernières années de ma carrière que j'ai travaillé avec la Ville de Québec, ça allait numéro un, une question d'attitude, puis c'est le fun de travailler avec la Ville de Québec. C'est un beau corps de police.
Oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont déterminées d'avance? C'est-tu un chef du côté de la SQ qui discute avec un autre chef du service de police de la Ville de Québec? Puis là, ces deux gens-là s'entendent, puis après ça, ils font descendre ça en bas? Ou c'est vraiment une escouade qui est carrément formée où il n'y a qu'un seul chef? Ça peut être un gars de la SQ ou encore du service de police de la Ville de Québec. Puis en dessous, les agents sont autant d'un bord comme de l'autre. Vous êtes tous mixtes?
Bien, on est tous mixtes. À partir du moment où c'est que le gouvernement prend la décision que la SQ va aller porter main forte à la Ville de Québec, là, après ça, ça tombe directement aux hauts dirigeants, aux deux états-majors, qui, eux, vont déterminer qui fait quoi. OK, vous autres, vous allez être enquêteurs, ça va prendre un chef d'équipe, ça va prendre un lieutenant. Puis là-dedans, ben moi, je connais les enquêteurs, ça fait pas très longtemps, je suis retraité, autant d'un bord que de l'autre. D'un côté, oui, c'est une bonne nouvelle parce que la Ville de Québec va avoir 10 enquêteurs de plus, gratuitement, de parenthèse. Et puis, c'est bien vu autant du bord du SPVU, du SPVQ que de la SQ. Ils sont contents d'avoir ces enquêteurs-là. Mais quand on parle de crime initié, on parle beaucoup de crime organisé, on parle de crime initié, on parle de projet à mi-long terme. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que le directeur du SPVQ a pris la peine de mentionner que lui, ce que ça lui prenait, puis je le comprends, puis je suis 100% d'accord avec lui, c'est un budget, puis des enquêteurs à temps complet, toujours, sur le crime organisé. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de désabrier 10 enquêteurs de la SQ pour les envoyer au SPVQ. Mais ces enquêteurs-là, là, à la SQ, puis je les connais, ils ont des dossiers, eux autres, en ouais. enquête. Puis ces dossiers-là, en crime organisé, quand on contrôle les sources, il faut toujours être contemporain. Fait que là, est-ce qu'ils vont mettre sur hold leurs dossiers actifs actuellement pour aller prêter main forte au SPVQ? Ils vont-ils être remplacés, ces enquêteurs-là? J'en doute fortement. Parce que normalement, les enquêteurs qui sont remplacés au crime organisé, ils vont prendre des gens de la patrouille. Puis la patrouille, ils sont déjà sur le fer. Fait que oui, pour le moment, c'est bon, c'est un beau petit plaster qu'on met sur le bobo, mais c'est pas fini. C'est pas ça que ça prend à temps plein et à long terme.
Je parlais avec Roger Ferland la semaine passée, qui est un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, un gars que j'aime bien. Moi, quand j'étais jeune, Roger Ferland, c'était une légende. Il courait après mes cousins. Puis j'y ai dit, en plus, quand j'ai rencontré Roger, qu'il était mes cousins, il a eu à les côtoyer souvent. Puis Roger dit « Ah ouais, tu lui diras salut de ma part! »
<C'est bon. rire>
Mais ce qu'il me racontait, c'est qu'il y avait beaucoup à négocier avec les gens qui étaient au-dessus de lui concernant des coûts à certaines enquêtes. Alors que, à mes yeux, à moi, si on est au courant qu'il se passe quelque chose, on peut automatiquement enquêter. Roger disait, ben moi, il fallait que je monte un dossier, que je monte ça en haut, et après ça, si l'argent était disponible, ben là, je pouvais travailler là-dessus. Danny, honnêtement, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Est-ce que du côté de la Sûreté du Québec, c'est la même chose? Est-ce que vous faites achaler par les comptables? C'est-tu les comptables qui gèrent le Québec là, pour ce qui est de la police?
Moi, j'ai fait du crime majeur puis des enquêtes de poste. Et puis, au niveau du crime majeur, le budget, je vous dirais, c'est du 1er avril à aller jusqu'au 31 mars. Quand qu'arrive le mois de décembre, on recalcule nos papiers, puis autant comme responsable, j'avais un budget à gérer. Puis là, on resserre la vis. Les municipalités, c'est encore pire.
Ouais. Mais c'est une pression que vous avez, ça, en tant qu'enquêteur, d'essayer de rentrer dans les budgets. Il me semble que quand il y a une enquête qui en vaut la peine, puis on sait qu'on va pogner des criminels, ça n'a pas de prix, ça.
C'est frustrant parce que au niveau du crime majeur, OK, c'est beau, il y a un dossier live, on ne comptera pas là, le temps que ça prend et l'argent que ça a coûté, tout ça. Mais aux enquêtes de poste, qui sont quand même des bons dossiers d'enquête, il y a des dossiers d'agression sexuelle, souvent, puis il y a un beau caseload, on a des dossiers, 30 dossiers par enquête, par enquêteur. Je vous dirais que demander ne serait-ce qu'une heure d'overtime sous l'heure du midi, il faut que ça soit autorisé. Puis si c'est pas autorisé, bien, regarde, tu vas manger. Fait que les enquêteurs sont tellement professionnels, autant des deux bords, là, SMSQ, qu'ils vont le travailler bénévolement. Parce qu'ils veulent que leur dossier avance, puis parce qu'ils croient en leur dossier, puis ils travaillent pour les victimes.
Tu sais, Danny, moi, tu sais pas, mais je veux établir une dictature à un moment donné. Là, je vais acheter mon île à moi, puis je vais créer ma propre civilisation, ce qui fait en sorte que je vais mettre mes propres règles. À mes yeux, à moi, quand les policiers tombent sur des caches d'armes ou encore des caches d'argent, cet argent-là devrait revenir au service de police et on pourrait utiliser cet argent-là pour faire d'autres enquêtes, pour lutter contre le crime organisé. Mais depuis des décennies, je sais qu'à chaque année, il y a de l'argent cash qui se brûle, puis cet argent-là disparaît totalement et ne sert absolument à rien. À mes yeux, à moi, on pourrait faire même un 50 %, tu sais, un 50 % aux bonnes œuvres, puis l'autre, ben justement, pour aider aux enquêtes à notre service de police. T'es-tu déjà demandé pourquoi on faisait pas ça? Pourquoi on brûlait cet argent-là plutôt que s'en servir?
Oui, bien, même les policiers au complet, on se pose la question parce qu'on saisit des véhicules, exact. On saisit de l'argent, on saisit des armes. Et dans les cas de gros dossiers, c'est des produits de la criminalité qu'on appelle, on va saisir des maisons. Puis, à un moment donné, la maison, tout ça, quand il y a l'équité, il n'y a plus d'équité ou la maison appartient d'un autre côté à une banque,
ouais.
Tu sais, cet argent-là, elle va où? Elle va où les exhibits, là? Nous autres, quand on les détruit, la drogue, ça, c'est correct, là. Mais le restant, bien, ça va au gouvernement. Puis souvent, eux autres, la façon qu'ils vont diluer ces exhibits-là, bien, ils vont vendre ça aux enquêtes.
Ils vont pitcher ça ailleurs. Ouais. Sans que ça revienne aux services de police qui ont travaillé pour la trouver, là.
Jamais, oui.
Ouais. Ben, bref, ça serait ça dans ma dictature. Ce serait pas pire.
Ben, je vote pour ça.
Bon, ben, j'ai un premier citoyen. C'est un ex-enquêteur de la police. OK, hey, on a plein de sujets à jaser avec toi. Je voulais parler de l'opération Mr. Big. Moi, je me souviens d'une femme. Là, peut-être Audrey, tu pourrais embarquer sur Google parce que je veux retrouver son nom. Mais c'est une femme qui avait rencontré un homme qui habitait dans le secteur Vanier, et l'homme l'a tué. Mais pendant des semaines et des semaines, on recherchait cette femme-là. Puis on a fait une opération Mr. Big pour embarquer ce gars-là. C'était un gars de Vanier.
Alain Perrault?
Oui, c'est ça.
Alain Perrault. Lynn Mascotte.
T'as une bonne mémoire.
Donc, ben c'est c'est un classique. Tu sais, moi, je peux pas y googler, là, mais là, tu vas être l'expert avec toi.
Ben oui, mais tu mets les mots-clés. Vanier, meurtre, opération Mr. Big, tu vas tomber dessus. Ouais. Donc, dans son dossier, lui, on a vraiment monté une opération Mr. Big autour de lui. On l'a fait rencontrer un individu. Cet individu-là travaillait pour d'autres individus qui étaient plus haut gradés. Puis le gars a comme trouvé une famille dans laquelle il pouvait avoir un peu d'argent s'il réalisait des petits contrats.
Exact.
Puis, à la fin de tout ça, s'il voulait encore monter plus, il y avait une rencontre avec le chef de l'organisation. Puis, le chef de l'organisation a dit, « Ben moi, je veux savoir exactement tout ce que tu as fait de croche pour être sûr et certain qu'il n'y a rien qui remonte à nous autres puis qu'on puisse te rentrer pour de bon dans l'organisation. » Et on avait demandé à Alain Perrault, « Là, le corps, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? » Tu sais. Puis là, Alain Perrault, il avait dit une affaire comme « Oui, oui, on peut le retrouver quelque part. » Puis il les a niaisés dans le secteur de Lévis, de mémoire. Et on n'a jamais réussi à retrouver son corps. Mais le gars avait été pogné dans une opération Mr. Big où il avait dit qu'effectivement, il l'avait tué.
Mmh.
Et là, il y en a une autre opération Mr. Big qui a été faite autour d'une gardienne de Québec qui était accusée d'homicide involontaire.
Sur un bébé de 13 mois.
Exact. Puis, je veux dire, ça demande énormément d'argent, justement, créer cette opération-là, Mr. Big. Comment ça se passe du côté du service de police quand on crée ce genre d'organisation-là, qui est une fausse organisation?
Bien, premièrement, Mr. Big, c'est qui? C'est qui Mr. Big? Pourquoi on l'appelle ça de même? Bien, Mr. Big, tu l'as nommé, c'est le chef de l'organisation fictive. C'est quoi un Mr. Big, en gros? Bien, c'est la création par un service de police d'une organisation criminelle. Et là, entre autres, par rapport au dossier de la gardienne, ça peut être également une organisation qui est non criminelle. Où est-ce que, via divers scénarios d'infiltration, on va amener une personne, où est-ce qu'on a des bons doutes qu'elle a commis un crime grave, il faut que le crime soit grave, à l'amener tranquillement, via plein de scénarios, à rencontrer Mr. Big, qui est le grand boss là, de l'organisation, puis à lui donner l'opportunité d'avoir des aveux. Des aveux et ou des admissions.
Mais c'est excessivement... C'est délicat, là, parce que... Moi, je trouve que ce monde-là, son cocombe de se faire prendre, là, dans le sens que... Moi, je commets, bon, un meurtre ou quelque chose de gros, puis demain matin, il y a du monde qui rentre dans ma vie, puis là, tout d'un coup, j'aurais confiance en ces gens-là.
Attends un peu, là. T'as un gros sac social, t'as un chum, t'as une job, tes parents sont là, sont très présents, t'es pas isolé. Un gars comme Alain Perrault, là, tout le monde voulait le tuer. Là. Tout le monde dans l'entourage d'Alain Perrault voulait le tuer. Il était rendu seul au monde, sans ressources. C'est un gars qui était sur l'aide sociale depuis des années et des années.
Mais moi, je te parle de la gardienne maintenant.
Oui, mais il vivait une grande pauvreté. Puis là, il rencontre un gars qui devient son meilleur ami, qui devient son confident, qui fait faire un peu d'argent, coûte 100$, 200$, 300$, quand t'as pas une scène dans tes poches, il y a de la valeur à ça. Puis là, tout d'un coup, il y a des gens qui semblent t'apprécier, puis trouver que t'es bon, ils te donnent comme une valeur que tu pensais pas que t'avais. Tu te fais embarquer. Ces gens-là ont des grands manques, là, je veux dire, quand ils sont dans ce genre de situation-là. Puis Alain Perrault, c'était pas un génie, là, mais il s'est fait effectivement embarquer. Là.
Puis tu sais, t'amènes carrément le point principal que la défense va amener, si ce n'est pas déjà fait, dans le dossier de la gardienne. Comment que les aveux ont été obtenus? Comment que le suspect a été manipulé dans le Mr. Big? Tout d'abord, le Mr. Big, là, ça date pas de 100 ans. Là. C'est inventé dans les années 90. C'est la GRC qui l'a inventé. Puis c'est exclusivement au Canada. Il y a peut-être un peu l'Australie qui le fait, mais tu n'as pas ça aux États-Unis. Tu n'as pas ça ailleurs dans le monde. Puis... Question quiz, combien de Mr. Big ont été faites depuis la création au début des années 90?
Je te dirais peut-être une vingtaine.
Une vingtaine?
J'aurais dit une quinzaine, vois-tu?
On en est rendu à 350.
Ouh! Oh, Pelé, qui okay.
On n'entend pas toujours parler.
Non, c'est ça!
Oui, mais de plus en plus, et c'est pourquoi maintenant, puis tu sais, je me suis fait rabrouer la semaine passée quand j'ai fait des recherches, je parlais de Mr. Big avec des collègues, puis ils ont dit non, on n'appelle plus ça un Mr. Big. On appelle ça une technique d'infiltration en crime majeur. Pourquoi? Parce qu'on a brûlé le nom Mr. Big. Fait que si jamais un jour vous entendez de technique d'infiltration en crime majeur, faites le lien parce qu'on va de moins en moins entendre parler de Mr. Big. Puis oui, ça coûte cher. Ça coûte cher en ressources humaines parce que ça va prendre des agents d'infiltration. Ça coûte cher en ressources matérielles parce que, je vais vous donner un exemple du bureau de change, probablement un des plus gros Mr. Big, le projet Compote de la GRC. Puis, les ressources financières, parce que ce n'est pas un dossier d'enquête qui se fait en un mois sur le coin d'une table. Ça peut durer des mois, voire des années. Vous donnez un exemple de Mr. Big, bien, puis je vous parlerai de l'arrêt Hart après. Mr. Big, là, à l'époque, tu avais la mafia. Ben, la mafia à Montréal était très implantée dans l'économie légale, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis la GRC, racontait ça rapidement, a décidé de créer un bureau de change. Ils ont loué un édifice. Se sont fait former par la Banque nationale du Canada. Ils ne connaissaient absolument rien dans le change, dans le bureau de change, tout ça. Ils étaient au-dessus d'une centaine à travailler là-dedans. Moi, j'ai travaillé un peu dans ce dossier-là, mais vraiment de façon éloignée. Et puis, tranquillement, pas vite, ils ont gagné la confiance de la mafia qui blanchissait leur argent et transférait leur argent dans les paradis fiscaux. Il y a eu au-dessus d'une quarantaine, vous irez voir ça, le projet Compote d'arrestation. Il y a plusieurs millions, c'est pas plus, de
qui ont
dollars
été perdus.
Qui ont été récupérés. Et puis, ces gars-là, il y en a encore qui sont en dedans, là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mr. Big, c'est beaucoup d'imagination. On parle du dossier de la gardienne.
Ouais.
Tu sais, moi, je lève mon chapeau à l'enquêteur que je connais, là, David Gionnet du SPVQ, parce que dans des cas de Shaking Baby, ce qui est le cas, là, le bébé secoué, c'est terrible.
Oui, puis les dommages, on parlait, là, cette pauvre fillette-là de 13 mois, là, les dommages, c'était équivalent à si elle avait été jetée d'un 10e étage. Là.
Exactement. Puis, tu sais, moi aussi, c'est venu me chercher, puis ça vient chercher tout le monde. Puis, pour en avoir enquêté plusieurs dossiers de bébés secoués, souvent, nous, ce qu'on fait, bien, on y va avec l'opportunité exclusive, c'est-à-dire, qui c'est qui est en contact avec l'enfant? Bien, tu as toujours les parents ou une gardienne ou la grand-mère. Ça tourne toujours autour de ça. Mais si les quatre personnes, tu les rencontres puis ils ne disent rien, bien là, à ce moment-là, tu es foutu un peu. Il faut que tu utilises d'autres techniques. Et malheureusement, pas la majorité, là, mais il y a des enquêteurs qui vont passer à d'autres choses. On se regarde, c'est plate, mais on n'est pas en mesure de déterminer qui la tierce personne qui a touché l'enfant. Mais dans le cas de la gardienne, David, il a poussé ça, puis ça revient un peu à ta question, à ses boss, puis il a dit « Non, non, moi, je laisse pas ça passer. Là. Regarde, on est convaincu que c'est elle, il nous manque seulement des aveux. Donc, on va créer un Mr. Big. » Et le Mr. Big a duré quelques mois, et il a fallu qu'il vende à son boss. « Regarde, oui, ça va coûter de l'argent. Oui, ça va coûter des agents d'infiltration. Puis oui, il va falloir créer un scénario, puis oui, il va falloir demander assistance à d'autres corps de police qui sont spécialisés en infiltration. » Mais il a réussi. Mais ça, moi, j'appelle ça un excellent enquêteur. C'est de l'acharnement. Puis je suis très, très heureux pour les parents de cette jeune victime-là du résultat. Puis malheureusement, puis ça me fait glisser à l'autre sujet, Larry Hart, c'est que Mr. Big, ça fait 350 fois qu'on l'utilise. Là, les procureurs, autant de la Couronne que de la Défense, commencent à connaître ça. Et ils vont se défendre avec Larry Hart, qui, l'exemple, c'est... un gars, Nelson Hart, c'est un gars de Terre-Neuve, Labrador. Lui, en 2002, il a assassiné, il a noyé, ses deux enfants, il y avait des jumelles.
Tabarnouche.
Ouais. Puis au début, il a prétexté que c'était parce qu'il a paniqué puis il ne savait pas nager. Il a noyé dans un lac, donc il est allé voir la police, il a dit « T'arrivais quoi à mes enfants? Je ne sais pas nager, ils sont mortes. » Et puis après ça, il a changé sa version, puis il a dit qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Donc, ils ont fait le RCMP, là-bas, la Jersey, a fait un Mr. Big, où c'est qu'ils ont amené tranquillement Nelson Hart au tout début à faire un scénario d'organisation criminelle. Ils commettaient des petits crimes, des fraudes à l'identité, des cartes de crédit, rien. Quand on fait des Mr. Big, on s'entend, là, on a une certaine immunité policière, mais on ne peut pas commettre des crimes contre la personne. T'sais, on ne pourra pas accepter un voie de fait... un coup de couteau ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment des crimes contre la propriété, souvent des crimes financiers. Donc, tranquillement, pas vite, ils l'ont amené là-dessus. Et à la fin, c'est ça le but ultime du Mr. Big, c'est de rencontrer le chef de l'organisation sous prétexte que le chef de l'organisation, il y a de quoi qu'il l'agace dans son cas à lui. Il veut régler ça avec lui parce que c'est une question de temps avant qu'il se fasse arrêter. Un peu avec Alain Perrault. Alain Perrault, il a tout dit. À cause que Mr. Big, il a dit, garde, tu vas te faire arrêter, puis moi, je ne veux pas te perdre, puis au contraire, je vais t'aider. Donc, Nelson Hart, lui, il avait une certaine vulnérabilité au niveau de... Le gars, il était peu instruit. Le gars, il n'avait pas d'argent. Le gars, écoute, il vivait en solitaire. Il était isolé. Vous irez voir ça, là, Larry Hart. Là. Et puis, la défense est allée sur le fait que la police avait obtenu les aveux de façon illégale, que le consentement n'était pas éclairé, puis qu'il y avait une manipulation. Ils se sont servis de ces vulnérabilités pour qu'ils passent aux aveux. Donc, le dossier a tombé. Ce gars-là est encore en vie, il est encore à l'extérieur des... Il fait encore ses trucs.
Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mr. Big ne fonctionne pas nécessairement. En tout cas, il faut que ça reste éthique dans la façon de faire.
Maintenant, là, le fardeau de la preuve est renversé, c'est-à-dire que la couronne d'entrée de jeu doit démontrer, avant même le début du procès, que les aveux ont été obtenus de façon légale, judiciairement légale.
Puis, pendant toutes les opérations Mr. Big, ce qu'on leur demande de faire, c'est jamais illégal, c'est ça? On n'a pas le droit de pousser quelqu'un à l'illégalité.
En fait, oui, c'est qu'on peut dire, comme lui, là, Nelson Hart, ou même Alain Perrault, il commet des crimes.
Juste
avec
pas contre
les agents
personne.
Doubles. Puis c'est graduel. T'sais, il peut avoir 5 scénarios, il peut en avoir 10, il peut en avoir 20, il peut en avoir 50.
Le Parce but qu'on s'entend premier... qu'ils ne fraudent pas des citoyens. Là. C'est organisé.
Tout
là.
Est organisé. Oh, oui, les victimes sont fausses. Tout est faux. C'est un scheme qui est monté de A à Z, mais il commet quand même des actes criminels. Mais il y a une certaine immunité. Puis le but, c'est de gagner sa confiance. Puis à un moment donné, il arrive le jour où c'est que le Big Boss va le rencontrer, ce gars-là, parce que ça commence à être bon. Là.
Est-ce que vous faites affaire avec des gens hors police pour monter ces opérations-là? Parce qu'honnêtement, moi, tous ces scénarios-là, penser à tout, on dirait que je prendrais quelqu'un qui écrit du théâtre, là, dans la mesure où c'est énorme.
C'est des scénarios qui sont créés par des policiers, par des agents d'infiltration, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, surtout à la GRC, vu que c'est pas mal leur bébé. Mais encore une fois, quand on a monté le bureau de change, on a fait affaire avec la Banque nationale du Canada, où c'est qu'il y avait vraiment un secret confidentiel,
ouais,
qui nous ont donné de la formation pour ça.
qui sont ces agents d'infiltration-là vers la fin des années 70, jusque peut-être au début des années 80, 81, 82, il y avait un gars, c'est un agent fédéral, je pense que c'est Joseph Pistone, qui a infiltré la mafia new-yorkaise. Puis ça a donné lieu à un maudit bon film avec Johnny Depp, soit dit en passant, ouais. Donnie Brasco, je veux dire, jeune policier. Tu sais, quand tu veux t'en aller comme policier, puis t'entends parler de ces histoires-là, des agents d'infiltration, tu sais, il y en a qui sont relégués à, je sais pas, moi, faire la circulation. C'est pas vraiment le genre de métier pas que rêve, le policier là. Veut faire au début de sa carrière, c'est-à-dire faire la circulation, mais c'est peut-être un passage obligé. Qui sont ces agents d'infiltration-là? Puis comment tu fais pour devenir agent d'infiltration?
Je t'avais dit, Yann, je pouvais pas en parler, mais il m'a rassaye. Écoute, je vais ouvrir. Je suis dur à casser, mais je vais ouvrir.
T'as-tu déjà essayé d'être agent d'infiltration?
Je peux pas répondre à cette question-là.
Ouais, ça reste top secret.
Oui,
mais... C'est quoi le nom que t'avais choisi,
mettons? Non, Yann. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il faudrait comprendre, mettons, pour les auditeurs, là, sans te mettre dans le genou, ton centre?
Ben, agent d'infiltration, il y en a plusieurs sortes. On a des je vais parler pour la Sûreté du Québec. On a des agents d'infiltration qui sont permanents.
OK.
On en a très peu. On a environ entre 5 et 10, je vous dirais. Eux, ils font ça à l'année et ils vont faire des projets à mi-long terme, le plus souvent qu'autrement. Et on a des AI, nous on les appelle les AI, agents d'infiltration temporaires, qui, c'est des patrouilleurs, qui, à l'occasion, vont participer à des petits projets d'infiltration d'enquête. Exemple, je vais vous donner un exemple classique. On a une maison, on sait que la personne a vendu de la drogue, des cigarettes de contrebande. Bon, ben OK, on va prendre l'agent d'infiltration, on va expliquer un peu le scheme, comment il fonctionne. On va lui dire, regarde, il habite à cette adresse-là, tu vas aller acheter de la coke, tu vas aller acheter des cigarettes. Ce gars-là, il vend n'importe qui. Fait qu'à ce moment-là, il va y aller. Ils sont souvent deux. Puis il y a toujours des agents couvreurs. Il ne faut pas penser que les agents d'infiltration, là, ils vont là tout seuls. Tu as toujours du monde qui sont prêts à réagir si jamais il arrive de quoi.
Ça se passe mal.
Et c'est ça. Puis ces agents d'infiltration-là, contrairement à ce que le monde pense, ben ils vont témoigner. Dans le dossier à la gardienne, ils ont témoigné. Quand ils ont témoigné, il y avait des paravents pour que pas personne les voit. Et de la façon qu'ils vont témoigner, on ne sortira jamais le nom.
OK. Fait que ces gars-là vivent au travers de nous, mais on ne saura jamais que c'est des policiers, puis ils font tout le temps ce genre de petites missions-là.
Oui, sauf que à un moment donné, ils ont l'obligation de rencontrer des psychologues, et souvent... les agents d'infiltration permanents, tu ne peux pas faire ta carrière là-dedans, plus maintenant. Avant ça, on en voyait, mais une fois que tu as fait 5 ans, tu commences à être brûlé un peu, tu commences à être connu...
Il y a ça
souvent,
aussi,
ils vont te transférer aussi un peu partout.
Dany, t'as le droit de me dire que tu peux pas répondre, mais j'ai vu un film cette année, OK, qui s'appelle Hitman sur Netflix. Je sais pas si t'as vu ça, faut que tu regardes ça.
C'est
avec Glenn Powell, puis en gros, ce film-là, c'est un faux tueur à gages qui, justement, fait de l'infiltration pour récupérer les criminels. Puis ce qui devient drôle dans le film, c'est que le personnage, c'est un nobody qui est pas bien, bien apprécié, puis il se crée des personnalités dépendamment de l'infiltration qui fait. Il est costumé, il se crée une attitude. Puis bon, là, il y a une histoire d'amour qui embarque, fait qu'il reste scotché sur un de ses personnages. Là. Mais ça me mène à te demander, est-ce que quand il y a infiltration, c'est utiliser ça, les costumes, t'sais, changer l'apparence, les prothèses capillaires, j'imagine, tout ce stock-là, tu peux pas garder ta face?
On appelle ça des cover stories.
Comme Dany, il n'a pas une vraie moustache. Là. Ça, c'est sa fausse.
J'imagine.
J'essaie de te ressembler.
Ça, c'est son costume de chroniqueur radio.
Non, de la manière ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on réalise qu'on a besoin d'un agent d'infiltration ou des agents d'infiltration dans un dossier d'enquête X, on va se faire ce qu'on appelle un cover story. Donc, on va avoir une fiche. Avec notre nouvelle identité, on va avoir des pièces d'identité différentes.
C'est un personnage qui est créé.
C'est un personnage, et puis il faut vraiment... Tu sais, un agent d'infiltration, c'est un comédien, là. Ça prend un bon sens de la répartie. Il faut que tu saches t'en virer sur un 10 cents.
T'as-tu une formation pour ça? J'imagine que c'est pas n'importe qui est choisi, là.
Une formation de 5 semaines, oui.
Ah oui?
Oui, 5 semaines...
Pour être capable de... Non, mais c'est correct, tu mets des limites, c'est important.
Depuis,
là.
Être toi-même. Un de mes chums, qui est un ex-agent de la GRC, nous écrit par texto, je le salue, soit dit en passant, au 418-971-1021. Pour ce qui est des gens qui veulent faire de l'infiltration puis qui ont l'intention d'en faire quand ils seront rentrés dans la police, lui, il dit, faut vraiment limiter les empreintes sur les réseaux sociaux.
Oui.
tu sais, ta face sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle soit pas là.
Mais ça, c'est-tu quelque chose qu'ils vous apprennent dès que vous êtes en technique policière? Parce que j'ai des proches qui ont terminé il y a pas longtemps, tu sais, leurs études, puis il faut qu'ils changent justement, plus de photos de profil, qu'ils changent leur nom, ils disparaissent un peu des plateformes.
Oui, effectivement, c'est ce qu'ils conseillent. T'sais, moi, mon nom, il est encore là sur Internet, sur Facebook, parce que je suis un peu vieux, puis on peut me retrouver facilement, mais dans un monde idéal, il faudrait que je le change, tu sais. Mais oui, c'est une question que on a vu des histoires où c'est que, surtout les filles, je vous dirais, le suspect ou peu importe, moi, dans mon cas, une victime m'a retrouvé sur Internet puis était en amour avec moi, elle m'offrait des cafés,
mais elle allait chez eux.
Oui, mais tu sais, c'est fréquent, là.
Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer, Dani?
Non, mais
un bel homme comme toi. Oh.
La fille a trippé sur le beau policier qui l'arrêtait comme m'a cherché sur Facebook.
Ben, satisfait du travail que j'ai fait. Exact. Là, on parle au niveau professionnel. Mais oui, il nous suggère de changer notre nom. Tu sais, mettons, Morissette, mais je vais mettre mort avec une truite, je sais pas.
Non, oui, c'est ça, c'est ça. C'est particulier.
Ouais.
On a parlé de Mr. Big, mais il y a d'autres techniques d'enquête que vous utilisez au quotidien. Puis tu nous as sorti l'ADN, puis ce qui était empreinte digitale aussi.
Oui, ben moi, je suis pas une police scientifique, loin de là. Mais quand même, ouais, on peut en parler des empreintes digitales, rien que pour le fun. Alors, on a une petite question quiz, Audrey.
Vas-y donc.
D'après toi, là, c'est quoi les probabilités d'avoir la même empreinte digitale que quelqu'un d'autre?
Mais on c'est pas zéro, il me semble.
Une chance sur combien?
Une chance sur, mettons, on est quoi?
2 millions, je sais
un
pas.
Un sur 9 milliards.
Oh, ben, au niveau, excuse, j'ai fait mes devoirs, là, je ne savais pas par cœur. C'est une chance sur 64 milliards.
OK.
Hey, moi, je pensais que tu n'avais pas la même que personne dans la vie.
Ben, c'est ça.
C'est ça. Les seules personnes, d'après vous, qui ont les mêmes empreintes digitales à la naissance.
Est-ce que ce serait les jumeaux?
Les jumeaux identiques.
Ouais.
Puis encore, parce que quand tu vieillis, à un moment donné, les crêtes, les sillons que tu as autour de tes doigts, on les voit, les trous, hein, ça fait des petits cercles. C'est ça, les empreintes. Là. On dit souvent empreintes, mais c'est empreinte en passant. Là, je me fais souvent reprendre. Puis les jumeaux identiques, avec le temps, à un moment donné, tu manipules des choses, tu travailles avec tes doigts, donc...
Ça laisse des traces.
Ça laisse des traces, des stries. Donc, là, à ce moment-là, on peut les distinguer. Compte une anecdote... À un moment donné, à Port-Cartier, c'est beaucoup des détenus qui ont des problèmes de santé mentale. Et eux autres, là, pour ne pas se faire prendre, il y en a un qui s'était brûlé les 10 doigts avec de l'azote en se disant « jamais qu'on va retrouver mes empreintes digitales ». Un autre qui s'était coupé les 10 doigts en s'ébuffant.
Okay. Mais voyons. Quand tu te coupes les doigts, c'est sûr que tu ne retrouveras jamais tes empreintes digitales, mais si tu les brûles ou ça va repousser, là?
Oui, sauf que, en tout cas, lui, c'était vraiment avec de l'azote là, ou de l'acide, je ne sais pas. Il n'y avait plus de doigts, là.
Okay.
Oh, mon
mais
Dieu!
On n'est pas rendu à prendre la dactyloscopie des pieds. Pas encore.
Ouais. Mais maintenant, je pense que ça va loin. Ce n'est pas juste les empreintes digitales. Ce qu'un policier m'avait raconté de la Sûreté du Québec, c'est qu'on y va avec la main maintenant. Ouais. Même les côtés de la main. Il essaie d'aller chercher tous les endroits où il peut y avoir des empreintes. Fait que si tu as juste, je ne sais pas moi, tu t'es à côté là, comme ça ici, le revers de la main sur l'ordinateur, eux, ils vont avoir les stries du revers de la main sur l'ordinateur. Fait qu'il faut qu'il l'aille en banque, ça.
Mais là, ça a l'air
toute
niaiseux,
la main au
là.
Complet, pratiquement, sauf en arrière, bien entendu.
Mais avez-vous comme une banque? Comment ça marche? Parce que je veux dire, moi, demain matin, mettons, j'ai pas de dossier, j'ai jamais rien fait de ma vie, puis je me retrouve sur une scène de crime, là.
Bien, toi, on n'aura pas tes empreintes digitales, vu qu'on les a jamais prises. Mais oui, on a une banque, ça s'appelle le Safran, et puis, ou Morpho. Admettons qu'on est sur une scène de crime, puis sur une vitre, on trouve une empreinte digitale. À ce moment-là, on va l'envoyer dans le système. Souvent, l'identité judiciaire nous donne un bon coup de main. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle un match, une concordance, qui soit positive ou négative. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de relier l'individu à la scène.
Fait que les empreintes, ça ne marche pas nécessairement dans tous les cas, puis à tout coup, là.
Non. Par contre, admettons qu'on a un suspect, donne un exemple classique, une série d'introductions par effraction, puis c'est tout le temps le même véhicule qui a été vu, puis là, on commence à penser, après l'enquête, que... C'est tel individu qui a commis le crime, mais l'individu, il n'y a pas de dossier judiciaire, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous empêche de demander à un juge un mandat pour le prélèvement d'empreintes digitales. Et après ça, on va aller voir le suspect. On va dire, regarde, tu es suspect d'une série d'intros par effraction. Viens-t'en ici. on prend tes empreintes digitales, on renvoie ça dans le système, paf, empreinte identique. Avec la probabilité que je viens de vous dire, 1 sur 64 milliards, les chances, la défense va avoir bien de la misère à dire
qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est-tu l'ADN ou les empreintes?
Ah, c'est une bonne question.
C'est une bonne question, les deux. Mais l'ADN, nous, on l'appelle la reine de la preuve. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va vous poser une question. Les probabilités d'avoir le même ADN sont de comment? Selon vous. Une chance sur...
J'ajoute tout à peu près la même affaire, selon moi. Là. Une chance sur... tu nous as dit quoi? 50 milliards tantôt? 64
milliards pour les empreintes. Une chance sur 64 milliards, hein? C'est une chance sur 5 millions. C'est un peu... C'est pas mal moins, même.
Ah ouais, OK.
Mais il n'empêche que 5 millions, on s'entend, là. Encore une fois, la seule exception, c'est les jumeaux identiques.
Non, ouais.
Ouais.
Je me rends compte que je ne connais pas partout comment ça fonctionne. Ouais. Puis
On me dit aussi que toutes les empreintes qui sont retrouvées sur une scène de crime sont répertoriées.
Oui.
Puis dans 20 ans, si tu te fais prendre, je ne sais pas, pour alcool au volant, puis que tes empreintes sont rentrées dans l'ordinateur, il va y avoir une corrélation entre ton empreinte puis l'empreinte qui a été découverte il y a 20 ans.
Meilleur exemple, Yann. Puis là, ça ressemble beaucoup, les empreintes, là, avec l'ADN, là. Cas de l'ADN, là, Marc-André Grenon, que je suis convaincu que vous en avez parlé, là, avec Guylaine Potvin. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là, c'était à Jonquière, lui, c'est en 2000. Il avait rentré par effraction chez elle, il l'avait violée, puis malheureusement, il l'avait tuée par la suite. Deux mois après, il avait fait la même chose avec une fille de Québec. Mais on le savait que c'était lui, mais on n'était pas capable d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable. L'ADN a énormément évolué, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ça a popé. Il y a eu une concordance par rapport au dossier de Québec via l'ADN du sperme de ce gars-là qui avait été pris.
C'était fou parce que ce qu'on avait fait, c'est que les policiers avaient suivi Grenon au cinéma, avaient surveillé pour que personne d'autre boive dans le même breuvage que lui.
Exact.
Puis quand il avait jeté son breuvage, il avait récupéré la paille pour être capable d'avoir... Hey, c'est fucked up, là! Faut pas que tu rates ta shot puis tu vas au cinéma le nombre de fois qu'il faut, là, tu sais, dans le sens
même
que...
pas écouté le film, pauvre policier.
non, mais lui, il écoutait notre suspect, là, là-dedans. Ouais. Il écoutait justement le tueur à gages, là, Gérald Galland. C'est drôle, hein?
Il écoutait le film Gérald Galland.
Ça a donné... On a saisi sa paille pendant qu'il écoutait... Après qu'il ait écouté son film Gérald Galland, les Confessions d'un tueur, je pense.
C'est épouvantable.
Mais au moins, on a réussi à le prendre de cette façon-là. Il y a les fameuses banques génétiques, là.
Comment BNDG, ça? La Banque nationale de données génétiques.
Oui, il y a ça, mais il y a Ancestry, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux puis à la télé aussi. Ancestry, c'est tu peux savoir qui sont tes ancêtres. Bien, tous les services de police sont reliés avec sa banque-là. Donc, si jamais toi, tu demandes qui sont tes ancêtres, t'envoies ton ADN là-bas, ça se peut qu'ils découvrent dans ton ADN qu'il y a déjà quelqu'un qui est relié à un meurtre qui a à peu près une certaine partie de ton ADN. Puis là, les policiers vont venir te voir. C'est arrivé, ça, dans le secteur de Toronto. Les policiers vont venir te voir et vont dire, « Ben là, tu connais-tu telle personne qui est décédée en France en 93? » Là, tu vas dire non. OK, ben c'est parce que là, en 93, la personne qui a tué a à peu près la même affaire d'ADN que toi. T'as-tu un frère, toi? T'as-tu un père? Oui, OK. On peut-tu les rencontrer? Puis là, ils vont leur faire passer des tests, puis ils vont les pogner.
C'est particulier pareil, ouais. Hein?
Mais dans le dossier à Grenon, c'était ça. C'est carrément ça. Ils sont allés avec Ancestry à la fin.
Ouais, c'est fourrette quand tu y penses. Mais là, c'est une drôle de question, là, mais on dirait que j'essaie de... tu sais, mettons, là, quand vous avez des enquêtes comme celle-là, là, on va tout chez le médecin à un moment donné dans notre vie, là, peu importe le pourquoi du pourquoi. Là, je veux dire, il me semble, mais dans le système de santé, nos fluides doivent être présents quelque part. Ça peut pas être utilisé, ça, dans ce genre d'enquête-là?
Non, pas actuellement.
Au moins, parce qu'il me semble que ça aiderait un petit pépère, tu sais.
Écoute, avec l'histoire de Maureen Bro, on a réussi enfin à avoir... un partage d'informations avec le système de la santé, ce qui est...
Maureen Bro, c'est une policière, hein?
Oui.
Par rapport aux antécédents, troubles mentaux.
Ça faisait 7 fois, je pense, là, qu'il y avait des troubles, le gars, là.
Fait que, tu sais, l'échange d'informations, s'il fallait qu'on prenne tous les échantillons sanguins puis qu'on mette ça dans le BNDG, je pense qu'il y aurait une expectative de vie privée énorme, puis ça passerait pas.
Les défenses pour ce qui est de l'ADN en cours, là, les avocats de la défense, là, quand ils veulent défendre les droits de leur client, ils se basent sur quoi pour essayer de détruire une preuve d'ADN? Parce que il me semble que c'est assez pertinent, une preuve d'ADN.
La seule façon qu'ils vont réussir à essayer de semer un doute envers le juge, c'est par rapport à la manipulation de l'ADN. C'est-à-dire à partir du moment où c'est qu'on prélève l'ADN d'un suspect, on a ce qu'on appelle une chaîne de possession à suivre. Donc, on doit tout noter. L'ADN doit être préservé dans un congélateur, pas plus que 24 heures, doit être transféré au LSGML, qui est le laboratoire de sciences judiciaires médico-légales, qui, eux, vont faire l'analyse et vont sortir soit le profil génétique de l'individu, s'il est connu, ou s'il n'est pas connu, vont sortir ce qu'on appelle une concordance de dossier. Donc, ils vont dire, regarde, puis ça, on a réglé plein de dossiers là-dessus. L'ADN que vous avez prélevé, on ne sait pas c'est qui. Par contre, le même ADN a été trouvé à telle place, à telle place et à telle place. D'où l'importance des enquêteurs de s'appeler après et de dire, hey, t'avais-tu un suspect, toi, dans ce dossier-là, parce que j'ai le même ADN sur mon dossier à moi. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça qu'on arrive à remonter au suspect. Ouais.
Il y a quelqu'un qui pose une question étrange. J'ai pas la référence. Peut-être que les gars, vous l'aurez. C'est-tu vrai que les empreintes que McDo prenait dans les années 90 sont dans cette banque?
Ah non! Non,
j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est la première fois que j'entends ça, mais ça serait pas
Donc la réponse est non. Oui, ça serait pas éthique non plus, j'imagine.
Non, on n'a pas d'entente avec McDo encore là-dessus.
Non, pas encore. On travaille!
Imagine la grosse conspiration.
On travaille fort sur Ronald McDonald. La relation entre les experts scientifiques versus les policiers, ça peut ressembler à quoi? Parce que je veux pas ces gens-là, ben vous avez votre propre champ de connaissances versus les scientifiques. Là, dans notre tête, on a tous les CSI, là. Mm-hmm. Mais versus ces gens-là, est-ce que vous travaillez de concert ensemble constamment? Même vous allez en cours ensemble? Parce que je veux dire, lui, pour expliquer quelque chose de scientifique, toi, t'es peut-être pas adapté à être capable d'utiliser les mêmes mots.
Le LSGML, surtout quand j'étais coordonnateur au crime majeur, là, c'était quotidien. À tous les jours, on se parlait. On a une excellente entente avec eux. Ils ont autant le goût d'attraper les bandits que nous autres. Et puis, souvent même, là, ça marche un peu comme n'importe quoi, par contact. Ça pouvait arriver des fois que j'appelais puis je disais, écoute, tel dossier, parce qu'on s'entend, ils vont traiter les crimes contre la personne avant de traiter les crimes financiers, les crimes contre la propriété. Serait-il possible que tu me rushes tel dossier? Puis souvent, la réponse était oui. Parce qu'on n'a pas le résultat tout de suite. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, des fois, avant qu'on ait le résultat. Mais okay. dans des meurtres, admettons, là, on va dire, regarde, mets ça en haut de la pile, là, c'est comme... ou les dossiers médiatisés. Donc, oui, on a une excellente entente, puis on a besoin d'eux autres, parce que c'est quand même nouveau, l'ADN, là. Ça date depuis le début des années 2000. Et de plus en plus, on grossit la banque de données génétiques, ce qui leur apporte beaucoup plus d'ouvrages, mais... C'est des experts, puis c'est comme tu parles de témoignages à la cour, des ententes témoigner, ça vaut tout l'or du monde. Puis ça, c'est sans compter qu'à l'occasion, ils vont se déplacer sur certaines scènes.
Okay. Puis est-ce que c'est des policiers dûment formés qui ont bifurqué un peu vers la science?
Non, c'est pas des policiers.
Okay.
C'est du personnel civil. Tu as beaucoup de techniciens en laboratoire.
Ça, c'est à la Sûreté du Québec.
Ça, tous les corps de police peuvent se servir du LSGML. C'est pas rien que la SQ, c'est pas exclusif à la Sûreté.
Il y a plusieurs textos qui entrent, là. J'ai l'impression que ça intéresse pas mal les gens qui ont déjà donné d'une façon ou une autre leurs empreintes, là. Il y a quelqu'un qui dit « Si j'ai donné mes empreintes à l'aéroport, Nav Canada, est-ce que je suis fiché techniquement? »
Non, c'est pas la même banque.
C'est indépendant.
Oui.
OK.
Oui.
Je te lis un texto qui est entré, qui est quand même assez sensible, mais tu as été policier, puis je me dis, vous avez sûrement reçu ces commentaires-là plus qu'une fois. Fait que je suis curieuse de t'entendre réagir là-dessus, Dany Morissette, en passant, qui est ex à la SQ, là, qui est avec nous ce matin. Les policiers et la justice protègent trop les criminels et négligent les victimes, familles de victimes, selon moi. On s'en fiche que les aveux sont obtenus illégalement. Le gars qui a tué mon frère est encore et aussi illégalement, à mon avis, en cavale. C'est un auditeur qui nous écrit ça. J'imagine que c'est pas la première fois que tu entends des affaires comme ça, là.
Non, puis en même temps, ben je comprends la déception du monsieur en question. Je suis pas au courant du dossier en tant que tel, mais je vais parler pour la grande majorité des policiers, surtout au niveau des enquêtes. Puis je l'ai dit lors d'entrevues précédentes avec vous, moi, ma priorité, c'est la victime. C'est la victime, c'est de m'assurer d'avoir une satisfaction avec cette victime-là. Puis... dans le dossier, justement, de la gardienne, David Gionnet, c'est ça son nom, il est allé jusqu'au bout, lui-là. Là. Donc, moi, je pense que dans son cas, lui, s'il y a une déception, peut-être de commencer par parler à l'enquêteur au dossier, de regarder avec lui qu'est-ce qui n'a pas bien été dans son dossier, puis s'il n'y aurait pas d'autres choses à faire. Puis là, dans son cas, lui, c'est un meurtre non élucidé, donc c'est un cold case. Le dossier n'est jamais fermé. Il y a certains dossiers qui n'ont aucune prescription. Les agressions sexuelles, les meurtres, les dossiers violents. Donc, oui, le meurtrier est toujours en cavale dans son cas.
Est-ce que les policiers y travaillent encore ou ils font un élément qui arrive ou une relance de la famille pour que le dossier soit ouvert?
On a une escouade qui s'appelle les cold cases, les dossiers non résolus, les disparitions non résolues. Le dossier de Cédric Provenché, c'est probablement le dossier le plus médiatique et le plus important de la Sûreté du Québec encore aujourd'hui. C'est des dossiers qu'on ne lâche pas prise. C'est sûr qu'on ne met pas 50 enquêteurs sur un dossier qui date de 20-30 ans. Mais à partir du moment qu'on a une information, une piste d'enquête, on ne la met pas de côté. Donc, dans son cas, à lui, son dossier n'est pas fermé, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on n'a pas trouvé le sujet. Ouais.
Mais est-ce que vous n'êtes pas obligé d'appeler les familles pour dire que vous avez eu du nouveau sur leur dossier concernant leur frère ou leur mère qui ont été décédés, qui ont été tués?
Non, on rentre encore dans une autre technique,
ouais.
Des crimes contre la personne. On appelle ça des « hold back ». En français, c'est, on retient certaines informations.
Ouais.
Pourquoi? Pour éviter qu'un jour, ça vienne aux oreilles du suspect. Puis ça, les « hold back », on le fait même à l'intérieur de notre organisation. Il y a plein de policiers qui ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Exemple, une perquisition. Moi, quand je préparais des perquisitions au niveau des stupéfiants, le monde avait l'information, l'adresse, tout seulement le matin, lors du briefing. Donc, c'est la même chose dans ces cas-là. On garde l'information. Des fois, c'est l'arme du crime. Des fois, c'est le modus operandi, comment il a procédé. Des fois, c'est le véhicule. Souvent, tu sais, dans Cédric Provenché, le véhicule, le fameux Acura, il n'est pas sorti le premier jour. Hein. On a attendu. Fait que c'est toutes des techniques en question.
Je ne sais pas si c'est une autre question que je peux me permettre de te poser parce que je vois les textos entrer. Puis peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, la façon de fonctionner n'est jamais vraiment claire. Peut-être que tu n'auras pas la réponse non plus. Mais il y a des gens qui font le comparatif des crimes. Tu sais, il y en a qui disent que, bon, ils sont d'accord avec le texto que je t'ai mentionné un peu plus haut là, sur le frère qui est décédé par meurtre, que l'importance... des crimes varient, puis que c'est pas toujours juste. Si on a une victime de viol qui nous écrit, puis bon, son violeur a eu 6 mois, elle dit que son frère a volé, puis lui a eu 4 ans de prison. Oui. Fait comment ça fonctionne?
Tu sais, la justice, puis je suis tellement d'accord avec eux. On va vous donner un exemple qui va même être pire que ça. On arrête du monde qui vendent des stupéfiants, qui vendent de la cocaïne, ils pognent rien, puis on va d'un autre côté ramasser quelqu'un qui vend des cigarettes de contrebande, on va saisir sa maison, on va saisir son véhicule, on va faire de la prison, on va le mettre dans la rue.
Mais ça...
Tu sais, le gars, c'est un crime sympathique, là, les cigarettes de contrebande, ouais. Mais il ne fait pas de mal à personne.
Mais
là.
Danny, ça fait des années que j'ai parlé de ce dossier-là, mais ce qui est incroyable au Canada, c'est tu peux t'attaquer à une personne ou tu peux faire un crime, puis tu vas payer quand même cher. Mais si tu t'attaques au système, si tu voles de l'argent au gouvernement, tu vas payer encore 2, 3, 4 fois le prix que tu aurais dû payer. Ne vole jamais le gouvernement, parce que si tu voles le gouvernement va te le faire regretter.
Mais au niveau, pour répondre à la question, parce que madame ou monsieur a pris la peine de nous écrire, nous, notre travail comme policier, c'est de réussir à trouver un suspect puis de l'amener devant le juge. Rendu là, notre job est pas mal fait, il va nous rester à témoigner. Mais tout ce qui s'appelle plea bargaining entre la défense, la couronne et après ça, l'entente commune peines, ouais. Pour la sentence, c'est le juge qui la détermine. Malheureusement, c'est pas le policier. Par contre, c'est comme n'importe quoi. Il y a des bons puis il y a des très bons policiers. Il n'y a pas de mauvais policiers, là. Fait que peut-être que dans le cas précis, elle a tombé sur un bon policier.
Danny Morissette, ça a été un plaisir. On t'en jase-tu la semaine prochaine ou dans 2 semaines, peut-être? C'est Audrey qui gère ça.
On va regarder le calendrier, certainement. Mais normalement, c'est maximum aux 2 semaines. On ne peut pas se permettre plus.
Puis en soi, ben oui, il te charge assez cher. Merci beaucoup, Danny. Hey, puis j'espère que ta labyrinthite va se régler. Là. Moi, j'ai eu ça pendant quoi 6 mois à peu près, puis j'étais plus capable de m'endurer. Toi, ça fait quoi, 2 semaines, là?
Non, la semaine passée.
La semaine passée, oui. Puis ça semble être réglé, là.
Ah, je suis encore étourdi, je te dirais. Là, des fois, je cherche mes mots, mais ça va mieux. Dis-moi donc une chose, avant de terminer rapidement, j'ai été voir ton gala de lutte.
T'es même pas venu me dire salut après?
Non, ben là, écoute, j'ai trop de monde autour de toi.
Colin.
Félicitations, vous avez ramassé combien d'argent?
Avec toute l'équipe, on a ramassé 20 750 $.
Super.
Pour la bouchée généreuse. Ouais.
Pour la bouchée généreuse. Mais explique-moi, il y a une affaire que je n'ai pas compris, puis là, c'est le côté enquête qui embarque. Là. Pourquoi Pascal était du bord de ton adversaire au début, puis elle virait à la dernière minute? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas. Je pense que Pascal a réfléchi à ce qu'elle était en train de faire. Elle l'a regretté, puis elle est venue me sauver la vie.
Mais elle allait manger une volée. Elle fait pas le choix, là.
Tu as-tu pardonné?
C'était pas une volée, c'était une chaise rouge.
Ouais.
J'espère que tu lui as pardonné.
Ah oui, j'ai pardonné. Okay. On est de même, nous autres. Hein? On oublie vite, les hommes. Hein?
Ah, on pardonne facilement.
Oh, les femmes, on les aime tellement. Danny Morissette, merci.
Merci à vous.
Bye-bye. Rage Against the Matin. Toujours une belle rencontre avec l'ex-policier de la SQ, Danny Morissette. Faut que je fasse attention aux questions que j'y pose. Hein?
Mais non, mais c'est normal. Le pire, c'est que c'est drôle parce que quand on avait commencé à collaborer avec lui, ouais. Il avait été clair sur les balises de ce qu'il pouvait pas parler. Puis c'est normal. Tu sais, nous autres, on est curieux, mais c'est normal qu'il puisse pas en jaser.
Exact.
Mais ouais, on s'essaie.
Ma job, c'est de pousser jusqu'à temps qu'elle me dise ça, je peux pas parler
c'est
de ça.
C'est ça, exact. C'est poser des questions et responsable de ses réponses.
Ma jeune infiltration, bon Dieu, j'aurais aimé faire ça.
Je comprends.
Puis tu sais, j'avais écouté le film Donnie Brasco qui est avec Johnny Depp. Puis il racontait l'histoire d'un agent du FBI qui, très jeune, a été embauché pour, rentrer dans la mafia à titre d'agent infiltré. Puis il a réussi à le faire.
J'aurais peur.
Puis tu viens qu'à oublier qui tu es. Tu deviens le personnage.
Totalement.
Je me souviens d'un gars qui est venu en studio avec moi. Écoute, il devait mesurer à peu près 5 et 2. J'essaie de retrouver son nom, mais lui, c'est un agent d'infiltration qui a travaillé partout dans le monde, OK? Et c'était pas un gars qui était très nerveux, là, même s'il était petit, il était pas très nerveux, mais sa seule peur, c'est que quand il dormait, il parlait.
Fait qu'il avait peur de donner de l'information.
Il avait peur de révéler sa véritable... Max Kane, ça se peut-tu?
Ça se peut, je vais chercher. Ah ouais, fait que lui, il avait peur de...
C-A-I-N, agent d'infiltration. D'infiltration.
Mais c'est particulier, ça. Par exemple, moi, je pourrais pas, j'aurais peur de me ramasser.
Alex Kane.
Tu mets ta vie en danger, mine de rien.
Ouais, c'est Alex Kane que j'avais reçu. Lui, pendant 28 ans, il a travaillé pour la GRC, le FBI, des agences antidrogue. Puis il a mis derrière les barreaux une multitude de personnes... de la mafia, les Mongols aux États-Unis. Les Hells Angels sont très forts aux États-Unis, mais les Mongols sont encore plus forts et plus dangereux. C'est des gens qui ont les mêmes techniques qu'en Amérique du Sud. Là. C'est-à-dire que ça se peut que tu finisses démembré dans une valise, quoique c'est arrivé
mais
à
c'est
Trenton.
Que tu te mets en danger carrément, là.
Oui.
Mais je comprends pas que tu veux faire ça. T'as mais pas réfléchi à ce bout-là, hein?
Mais le livre d'Alex Kane, si vous avez la chance de lire ça, il est juste exceptionnel. Là. C'est infiltrateur, là, le titre du livre de mémoire. T'es encore chez nous, je pourrais te le prêter.
Ben j'aimerais ça, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse full. J'ai commencé en fin de semaine, tu vois, moi, j'aime bien ce qui est morbide, là, mais le livre de Christian Page, ton ami, Les enfants qui tuent.
Oui.
Sur les jeunes enfants qui tuent. Qui tuent de la famille ou des gens pour aucune raison. Des jeunes ados. Puis, tu sais, t'as du 10, 11 ans. Ouais. Tu te demandes comment, pourquoi. C'est des histoires qui sont super morbides. Mais toutes ces affaires-là là, qui touchent la... En fait, tout ce qu'on sait pas puis qu'on vit pas, tu sais. J'ai l'impression qu'on est un peu aussi... On s'habitue, j'ai l'impression, à certaines images puis certaines histoires qu'on vit dans les films puis on réalise plus que c'est une réalité. Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui, mais des fois, c'est trop poussé puis on pense que les agents, c'est tous des agents du CSI.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement la réalité.
Mais pourquoi
non plus?
On est tout le temps porté? Moi, j'ai toujours été porté par les affaires policières. Là, depuis que je suis jeune, j'étais camelot, je lisais les journaux.
C'est
je devais avoir 9, 10, 11 ans dans ce coin-là. Dans le secteur de Chabanel à Beauport, c'est moi qui livrais le journal. Puis ça m'avait toujours passionné les affaires policières. Puis à chaque fois que je voyais un film où il y avait des policiers, ça m'intéressait beaucoup. Mes grands-pères étaient policiers. Fait que veux pas, j'avais entendu parler de ça tout le temps.
T'as jamais voulu faire tes études pour faire ça?
Non, je suis pas assez. Je me serais. Tu sais, mettons, pour les arrêter, tout aurait bien été. C'est rendu en cours, genre. Avez-vous utilisé des moyens légaux pour arrêter ces individus-là? C'est là où ça aurait chié.
T'as l'impression que t'aurais manqué de jugement, mettons.
Oui, à plusieurs égards envers des gens qui ont fait des choses, exemple envers les enfants, les femmes. Je suis pas quelqu'un qui a des demi-mesures dans la vie. Mm. Fait que.
Trop émotif.
C'est ça. Fait que, tu sais, vaut mieux arrêter quelqu'un d'une manière illégale, mais de le faire condamner que de ne pas l'arrêter pantoute. Alors qu'au Canada, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la Charte des droits et libertés. Puis faut que tu montres des dossiers de A jusqu'à Z. Faut que ce soit impeccable. Puis après ça, tu envoies ça au DPCP. Après ça, il prend le dossier puis il l'amène jusqu'en cours. Mais c'est ça, c'est le petit bout qui m'aurait manqué. Mais cela dit, les gens qui trippent sur ces trucs-là, on dit souvent que c'est des gens qui sont anxieux. Je suis pas anxieux pantoute.
Ouais,
les histoires de meurtres, les cold cases, tout ça.
C'est une curiosité morbide. Ouais. J'ai l'impression que c'est le besoin de comprendre, de trouver un sens, peut-être. J'ai aucune idée. Mais c'est vraiment intéressant, pour vrai. Puis je lève mon chapeau aux policiers, puis je trouve ça triste parce qu'il y a quelques histoires qui sont entrées par texto où il y a eu des difficultés au niveau de certains cas, au niveau judiciaire. Puis je trouve ça épouvantable, super triste. On dirait que j'ai le goût de dire, tu sais, il y a une majorité qui est positive quand même. Ben, c'est plate.
Sur 100 cas, il y en a 3 qui sont pas capables d'être résolus.
Comme les erreurs médicales.
Ben, le 3% des gens qui ont entendu parler de ces histoires-là ou qui sont directement impliqués vont être vraiment fâchés puis ils vont se faire entendre comme si c'était une majorité. Mais la majorité
du temps, normal en passant. Hein?
Quand il y a des meurtres au Québec, on retrouve les individus.
Ouais. Ouais. Ah non, non, c'est... Mais en bref, j'ai quand même une pensée pour ces gens-là.
On te dit à demain ou à tantôt?
Oui, bien à tantôt. Techniquement, je suis dans le retour, à moins que j'ai perdu ma job.
On se parle à 14h. Les Cowboys fringants, TQ sur les ondes de Boulevard. Pascal CV s'en vient.